If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bienvenue sur Build Yourself, votre ressource en marketing et podcasting. Dans ce podcast, vous découvrirez mes meilleures stratégies pour vendre vos offres grâce aux différents outils du web. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à visionner ma masterclass pour apprendre à utiliser le podcast comme superbe outil marketing en vous rendant à l'adresse safiagourari.fr/podcasting101. Maintenant, abonnez-vous et préparez-vous à enfin changer les choses. Peut-être que vous avez déjà envisagé d'organiser un événement virtuel, mais que vous avez mis l'idée de côté parce que cela vous semblait être une trop grosse charge de travail, ou peut-être que vous vous êtes fait happer par certaines peurs ou fausses croyances. Eh bien, si c'est le cas, l'épisode du jour devrait vous plaire. Je reçois Camille, qui est la fondatrice d'Events Events. Elle a fait de sa mission de démocratiser et de rendre accessible ce merveilleux outil marketing qu'est l'événement virtuel. À la fin de cet épisode, vous aurez les clés pour commencer à planifier votre propre événement virtuel et vous allez voir que ce n'est pas limité à un type d'entrepreneur ou qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un certain type d'audience avant de vous lancer. Je vous souhaite une belle écoute. Merci Camille d'avoir accepté mon invitation pour Build Yourself. Comment vas-tu ?
Ben, très bien, merci à toi pour l'invitation, c'est top.
Je me dis qu'il était temps. C'est vrai que c'est les événements virtuels, c'est un sujet qui est hyper intéressant et qui fait aussi pas mal peur, on va pas se mentir. Donc je me suis dit, il y avait rien de mieux qu'une experte, une stratège dans le domaine pour venir nous montrer à quel point c'est cool et pas aussi monstrueux qu'on peut l'imaginer de notre côté, tu vois.
Exactement, c'est quelque chose dont je me bats un peu tous les jours, c'est d'un peu de démystifier effectivement tout ce qu'il y a autour des événements virtuels, que c'est sûr que c'est des projets ambitieux, mais avec c'est comme tout, hein, avec le bon process, le bon accompagnement, on y arrive, quoi. Suivre les étapes.
Carrément. Et du coup, c'est quoi ton histoire ou ton intérêt avec les événements, finalement ? Parce que je me dis t'as peut-être eu un passif, tu vois, dans un domaine en lien avec tout ça, qui fait qu'aujourd'hui, tu t'es spécialisée dans les événements virtuels.
Ouais. Bah, je suis chef de projet événementiel par formation. J'ai un master en management d'événements internationaux. J'ai eu il y a 10 ans, 10 longues années. Et donc, ça a toujours été mon métier, ça a toujours été ma passion. Donc, essentiellement, les événements physiques, présentiels au début. Mmh. Et puis, bien sûr, la pandémie est arrivée il y a 2 ans. Et donc, plus d'événements physiques. J'étais freelance depuis 4 ans. Donc, j'ai perdu des contrats. Mmh. Et donc, je me suis tout de suite tournée vers les événements virtuels qui battaient déjà leur plein aux États-Unis depuis quelques années. Et donc, je me suis tournée vers les événements digitaux ou les sommets virtuels. C'est un terme aussi qu'on emploie dans l'infopreneuriat. Voilà. Et donc, je me suis spécialisée là-dedans et j'ai un peu deux facettes aujourd'hui. J'ai mon entreprise, donc Events Events, via laquelle j'accompagne les entrepreneurs pour qu'ils organisent leurs propres événements digitaux. Et je suis nouvellement salariée depuis janvier parce que j'ai une grosse opportunité professionnelle que voilà, je ne pouvais pas dire non. Et là, j'organise des événements présentiels, hybrides et virtuels. Un peu les trois panels selon les objectifs.
Ok, donc, génial. Et du coup, c'est pour des professionnels aussi
Ouais, je travaille pour un journal financier international qui a un département conférence. Et donc, on fait des partenariats avec des grandes marques et on monte des événements ensemble selon leurs objectifs.
Ok, génial. Qu'est-ce qu'on pourrait qualifier finalement d'événement virtuel ?
Beaucoup de choses. Il y a un peu selon la façon dont on l'entend, on peut faire rentrer dedans webinaires, masterclass, ateliers en ligne, du coup, sommets virtuels qui sont des événements plus long, avec plus d'intervenants, etc. Moi, je travaille vraiment sur effectivement des conférences qui se déroulent sur plusieurs heures ou plusieurs jours avec plusieurs intervenants. Donc, ça peut aller de 8 à 15, voire 30 intervenants. Ça a une ampleur plus ou moins importante selon l'objectif, selon le format, selon le programme. Voilà, donc c'est un enchaînement de sessions. Ça peut prendre plusieurs formats. Ça peut être effectivement des conférences, ça peut être des tables rondes, ça peut être des keynotes, ça peut être des interviews, ça peut être des démonstrations dans le cas de produits ou ça dépend des industries, des ateliers. Ça peut être un mix de tout ça. Ce qui est assez intéressant aussi pour un peu rythmer le programme, c'est de faire des sessions avec des formats différents. Et le but, c'est que ça se déroule sur, alors, soit plusieurs heures, ça peut être 4 heures, soit plusieurs jours, ça peut être 1 ou 2 heures tous les jours pendant une semaine, par exemple. Voilà. Et le but, c'est qu'on fait, on crée cette rencontre entre des experts et des participants. Et ben voilà, c'est un événement en ligne. Ça, c'est une des grosses erreurs qui a été faite par beaucoup d'entreprises, parce que c'était tout nouveau au début de la pandémie, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont voulu transformer leurs événements présentiels en événements digitaux. Mmh. Et ils sont juste dit, on va le faire en ligne et puis ça marchera pareil. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas retranscrire en ligne. On ne peut pas en ligne retranscrire l'énergie des gens, on peut pas faire passer les émotions autant que voilà, tu vois, là on est toutes les deux seules devant notre écran, dans un événement présentiel on est là, on touche les gens, enfin bon, on ressent l'énergie aussi, on voit les expressions des gens beaucoup, donc il y a des choses qu'on peut pas retranscrire en ligne. Par contre, le digital n'a pas de frontières, donc permet de toucher et surtout de connecter et de rassembler des gens dans le monde entier. Et ça a vraiment été fort pendant le Covid, notamment. Il y a beaucoup d'associations, d'organisations en général, d'entreprises qui se sont mis à ça parce que les gens avaient vraiment besoin d'un lien quand ils étaient confinés. Oui. Quoi.
C'est vrai. Il y a eu un espèce de boom de Zoom, d'ailleurs, ouais. Oui. À ce moment-là, qui a été presque, je dirais, salvateur pour certains. Oui, parce que c'était le seul moyen de connecter avec les gens, finalement, dans cette situation. Oui. Puisqu'on parle d'événements virtuels, est-ce qu'il y a plus de gratuits? Est-ce qu'il y a plus de payants? Qu'est-ce qui est pratiqué le plus souvent? Et qu'est-ce qui fonctionne le mieux, selon toi?
Ouais, alors, il y a plusieurs business models, effectivement. Soit on fait du gratuit et on essaye de rentabiliser l'événement avec un produit payant, enfin, une offre, en tout cas, à la fin ou pendant. Moi, c'est ce que je préconise parce qu'en fait, on offre énormément de valeur, on offre vraiment beaucoup, beaucoup de valeur à sa communauté. Et en fait, c'est une introduction un peu en douceur à ces offres ou alors à des offres qu'on crée en collaboration avec les intervenants. Donc, c'est intéressant pour tout le monde. C'est vraiment une expérience vraiment collaborative, tant au niveau de l'événement que l'offre qu'il y a derrière. Et ça offre beaucoup de valeur. Sans obligation d'achat, si tu veux. Donc, les gens qui participent à l'événement ont quand même une transformation qui est définie après dans la stratégie. Mmh. Il peut y avoir des événements entièrement gratuits, hein, sans offre payante derrière. Voilà, ça dépend de comment on... de sa stratégie business derrière. Il y a des événements payants. Ce qu'il faut savoir, c'est que encore une fois, avec la pandémie, il y a eu une accumulation, je pense que tu le vois aussi, mais de contenu gratuit en ligne. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses gratuites. Et les gens, en fait, n'ont plus l'habitude de payer pour du contenu en ligne. Et donc, pour rendre une offre attractive, une offre payante attractive en ligne, il faut mettre un maximum de valeur dedans. Il faut vraiment se battre pour que les gens voilà, ne se disent pas « c'est payant, ça ne devrait pas être payant, ça devrait être gratuit, etc. » Donc, c'est totalement… Il y a des entrepreneurs qui font des événements payants. Ce n'est pas le même objectif, en fait. Sur un événement gratuit, on va viser le volume. On va viser des milliers de participants pour en fait faire du list building, pour augmenter sa liste mail, pour ensuite avoir des prospects qualifiés et ensuite venir vendre derrière. Et ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est qu'on peut faire un événement par an, on travaille 3 mois dessus, on fait un gros événement par an et après, on nourrit cette liste toute l'année. Il n'y a pas forcément besoin de faire d'autres lancements qui sont assez énergivores, où on est un peu tout le temps en montagne russe toute l'année à faire des lancements. Tu fais un gros lancement et après, tu offres énormément de valeur d'un coup et ensuite, tu nourris ta liste. Un événement payant, on va plus viser la conversion du coup, donc la vente en fait. Ça peut se compter en dizaines ou en centaines de participants. On vise moins le volume, on vise le chiffre d'affaires. Donc, voilà, c'est vraiment, ça dépend de l'objectif. Il faut juste savoir que à partir du moment où on met un prix, même si c'est 10 euros, forcément, ça va, on n'aura pas le volume qu'on aurait avec un événement gratuit. Et c'est OK. C'est juste qu'il faut être clair là-dessus au début. Et malheureusement, j'ai vu des gens qui lançaient un événement payant, qui se rendaient compte que ben, c'était vraiment cata, ça ne marchait pas du tout, qui ont changé une semaine avant l'événement, qui ont mis en gratuit. Enfin bon, il faut vraiment décider ça au début. C'est stratégique. Ça dépend de son développement. Et voilà. Moi, je enseigne principalement l'événement digital gratuit dans le but d'introduire en fait des prospects qualifiés à ces offres tout en offrant énormément de valeur. C'est toujours le principal objectif.
C'est quoi les bénéfices finalement? Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont nous écouter qui ont probablement déjà pensé à faire des événements mais qui ne sont pas allés au bout, qui se sont un peu laissés happer par peut-être leur peur. C'est quoi les bénéfices principaux, les avantages au fait d'organiser un événement virtuel selon toi?
Alors, gros objectif principal, c'est la visibilité. Parce qu'en fait, on va profiter, comme il y a beaucoup de personnes qui participent à cette expérience ou à ce projet, en tout cas, il y a l'organisateur, les intervenants, éventuellement des partenaires, sponsors ou partenaires, où on peut faire des échanges de visibilité, etc. Le fait qu'il y ait beaucoup de monde associé sur ce projet, ça fait tout de suite en fait un boost de visibilité parce qu'on profite de l'audience de ces personnes-là. Et c'est comme ça qu'en fait on arrive à atteindre des milliers de participants en général sur les sommets virtuels et beaucoup plus que par exemple en passant par la publicité payante. On a des audiences beaucoup plus qualifiées parce qu'elles font confiance à ces personnes qu'elles suivent ou dont elles font partie de leur communauté. Et donc, elles vont aller les suivre un peu dans tous les événements auxquels elles participent. Et donc, nous, ça nous ramène, l'organisateur arrive à récupérer des audiences comme ça. Donc, et ça, plus le fait qu'il y a, moi, je conseille 3 semaines de promotion pour un événement virtuel un peu conséquent. Et donc, ça fait le buzz, en fait. On fait pendant 3 semaines. L'organisateur va faire sa communication, les intervenants vont être encouragés à faire beaucoup de promotions, les partenaires éventuellement. Donc voilà, on fait aussi, on peut faire des parutions presse, enfin, on essaie vraiment de toucher le plus de monde possible, dans sa cible bien sûr, pendant un temps donné. Donc ça fait beaucoup d'effusion et voilà, le principe c'est que pendant 3 semaines, on soit partout. Donc forcément, même si ce sont des gens qui ne s'inscrivent pas à l'événement, ils nous voient passer, ça reste dans leur mémoire, donc gros boost de visibilité. List building, je l'ai dit tout à l'heure, en général, on ressort de là avec beaucoup, beaucoup de prospects vraiment qualifiés sur sa liste email. C'est pas n'importe qui, c'est des gens qui se sont inscrits à l'événement parce qu'ils ont certaines problématiques ou certains intérêts. Ce sont des gens qui ont participé à l'événement, qui se sont engagés, et plus les gens sont engagés, plus on gagne leur confiance. Plus ils sont qualifiés éventuellement pour voilà, devenir des clients à plus ou moins long terme. Donc voilà, chiffre d'affaires, vraiment toujours ça c'est pareil, stratégiquement ça se prépare. Comment est-ce qu'on va rentabiliser l'événement? Qu'est-ce qu'on vend derrière? Comment est-ce qu'on introduit les personnes à son offre? Est-ce que ça ne va pas être, pas que ça soit trop pushy? Parce que c'est vraiment différent d'une masterclass ou d'un webinar, par exemple, où en général, déjà, c'est une personne qui parle, ce n'est pas forcément d'autres experts, et il y a toujours cette partie un peu vente à la fin qui est OK, on essaie de le faire moins pushy aujourd'hui, mais là, ce n'est pas du tout le cas. On ne parle presque pas des offres, il y a des façons beaucoup plus douces en fait, de les introduire en partant de vraiment la valeur du contenu qu'on délivre. Crédibilité aussi beaucoup. Moi, j'ai vu des clients passer de... Ça faisait 6 mois qu'ils faisaient du business. Il y a beaucoup de personnes qui... Enfin, je parle particulièrement de clientes que j'ai eues l'année dernière et que j'accompagne encore cette année, qui doutaient d'elles, qui ne les trouvaient pas crédibles. Et en fait, en faisant cet événement, ça les a tout de suite propulsées. Maintenant, elles sont reconnues dans la rue, quoi. Donc, c'est pas... Voilà, mais vraiment, c'est... En se positionnant comme l'organisateur d'un événement digital, on gagne vraiment en crédibilité et en légitimité aussi, parce qu'effectivement, ce sont des gros projets. Ça demande du courage, je ne vais pas mentir. Et en fait, il y a un développement professionnel et personnel, je pense, en faisant un événement comme ça, qui se réalise vraiment, quoi. Et on grandit, on se sent beaucoup plus légitime. Et voilà. Voilà un peu tous les avantages. Donc, c'est vraiment un outil qui permet de cocher plein de choses, en fait, dans son développement entrepreneurial.
C'est vrai que je pense que c'est un beau projet à avoir dans sa vie d'entrepreneur que d'organiser un événement comme ça, pour le coup. Est-ce qu'il y a des prérequis? Est-ce qu'il faut être à un certain stade de son activité? Est-ce qu'il y a certaines choses? Est-ce que c'est accessible à certaines personnes, peut-être pas à d'autres, tu vois? Est-ce que tout le monde peut faire un événement comme ça?
Alors, techniquement, oui, ce n'est pas quelque chose qui demande beaucoup de budget. Après, c'est comme tout, on peut faire un événement digital pour quelques centaines d'euros comme 10 000 euros. Ça dépend ce qu'on délègue, ça dépend ce qu'on a envie de faire ou pas. Ça dépend du budget qu'on met, oui, mais ça dépend si on veut faire ça dans un studio ou comme toi et moi là sur un ordinateur, ça suffit largement. Hein. Il n'y a pas besoin de matériel incroyable, on n'a pas besoin d'outils compliqués. En général, moi, je conseille aux entrepreneurs, ils ont déjà tout ce qu'il faut. Ils ont un site internet, ils ont en général une plateforme d'hébergement de formation, un outil d'emailing. Il ne faut pas grand-chose de plus. Il faut un outil pour enregistrer les conférences. Donc, c'est soit Zoom, soit, moi, je conseille plutôt StreamYard. Et voilà, après, on connecte les outils entre eux. Il n'y a pas besoin d'outils très élaborés ou très coûteux. J'ai perdu le fil de ma pensée. C'était quoi ta question?
Est-ce qu'il y a des prérequis pour organiser des événements?
Voilà, donc des prérequis. Pas forcément besoin de beaucoup de budget. En termes d'avancement dans son parcours entrepreneurial, moi, j'ai identifié que les personnes qui faisaient des événements digitaux, c'était, ou je recommande en fait à ces personnes-là de faire des événements digitaux, c'est quand elles sont déjà lancées depuis 2-3 ans, qu'on a mis en fait les bases en place, qu'on a une stratégie de communication, qu'on fait du contenu régulièrement, qu'on a une communauté un peu engagée, qu'on a un produit qui marche bien. Quand on a un peu cette base-là qui est posée, c'est comment est-ce qu'on va à l'étape supérieure, en fait? Comment est-ce qu'on débloque sa croissance et comment est-ce qu'on fait un boost de croissance? Et en fait, c'est pour ça que ces événements-là marchent bien, parce que ça nous permet, en faisant participer d'autres intervenants et d'autres experts dans leur niche, ça nous permet un peu d'aller chercher des nouvelles audiences qui ne nous connaissent pas forcément. Voilà, tout en délivrant, encore une fois, beaucoup de valeur à ces nouvelles audiences, mais aussi à son audience existante, donc de renforcer ce lien, etc. Je connais aussi des personnes, comme mes clientes l'année dernière, qui ne voulaient pas attendre et qui, par contre, voilà, ça demande du courage et voilà, mais qui ne voulaient pas attendre 2-3 ans pour que leur entreprise soit stable et grandisse et qui ont voulu faire ça tout de suite. Je connais des gens qui ont fait un événement digital avant même de se lancer, quand elles étaient encore en salariés, qui avaient un sujet qui leur tenait à cœur, qui ont fait des interviews, qui ont fait un sommet virtuel, et ça les a propulsés. Donc, on peut tout à fait faire ça au début de son activité pour justement ne pas faire un peu cette phase de croissance un peu lente où on met un peu tout en place, etc. On fait ça direct et on a une audience. Et une des fausses croyances que je m'efforce aussi de déconstruire, c'est qu'on n'a pas besoin de communauté. Pour lancer un événement digital, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais ma communauté n'est pas encore assez grande, nanana. » Mais en fait, c'est en faisant un événement digital qu'on crée cette communauté si on n'en a pas encore déjà une.
Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Qu'en tout cas, si l'objectif principal n'est pas la conversion, ça peut être un excellent moyen de développer sa liste d'emails au final.
Complètement. C'est complètement ça. C'est vraiment le premier avantage. Il y a vraiment du volume, en fait. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et surtout qualifié, ce n'est pas n'importe qui. C'est des gens qui viennent participer à l'événement parce qu'ils partagent ces problématiques avec d'autres personnes. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on leur offre la possibilité de connecter avec d'autres participants qui ont les mêmes problématiques, les mêmes soucis ou les mêmes intérêts, les mêmes rêves. Voilà, tout dépend du sujet. Mais il y a aussi cet élément de connexion, même en virtuel.
Alors, quelles sont les grandes étapes finalement pour organiser un événement virtuel? On va partir sur un événement gratuit, je pense que c'est plus simple pour tout le monde. Mais voilà, selon toi, avec tes conseils, ton expérience, quels sont les piliers, on va dire, pour un événement qui permette d'obtenir de vrais résultats à la fin et qui rencontre du succès?
Ouais. Alors, la première étape, c'est un peu comme chaque projet, c'est vraiment la phase stratégique. C'est qu'il faut vraiment se demander pourquoi on fait ça, comment ça s'intègre dans sa stratégie de développement et de communication à long terme. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire passer dans cet événement? Quelle va être la transformation qu'on va vouloir faire passer à, à sa communauté, aux participants, sans parler pour l'instant d'événements payants, d'éléments payants, pardon, qu'est-ce que l'événement dans son entièreté va apporter aux participants? Quelle va être vraiment la transformation? Et ensuite, on va aller voir comment, effectivement, on budgétise ça, quelle va être un peu la stratégie de pricing, est-ce qu'on va appliquer des prix évolutifs, etc. Quelle offre on va proposer derrière? Est-ce qu'on fait une offre collaborative, effectivement, avec les intervenants? Parce que ça, c'est ce qu'on voit souvent, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un coffret, où on demande, en fait, aux intervenants de proposer du contenu qu'ils vendent normalement. Donc, en fait, ça fait un bundle de formation, en fait, hein, de ressources qu'on propose, du coup, à prix très avantageux par rapport à la valeur globale. Le tout, c'est vraiment que cette offre finale soit alignée avec le sujet de l'événement. Ça va pas forcément, le taux de conversion sera beaucoup plus faible si c'est complètement décalé ou voilà, il faut vraiment que ça vienne s'aligner bien. Donc voilà, il y a vraiment toute une phase stratégique. La première chose à faire ensuite, vraiment dans l'organisation, ça va d'aller chercher des intervenants, parce que ça peut mettre un peu de temps, selon le temps qu'on a devant soi. Moi, je conseille minimum 3 mois. Mais vraiment, 3 mois, il faut commencer aujourd'hui, quoi. Chercher les intervenants, parce que ça va demander des relances. Ça va demander parfois des coups de téléphone pour parler du sujet, etc. Et selon aussi la période de l'année, il y a des personnes qui seront plus ou moins disponibles. Quand on va se rendre compte qu'un intervenant qu'on voulait vraiment n'est pas dispo, et ben il faut aller chercher un plan B, un plan C, etc. Donc, il y a aussi un peu toute une stratégie à ce niveau-là de démarchage, entre guillemets, des intervenants. Il faut aussi choisir des intervenants stratégiquement. On est quand même sur un événement digital. Et donc, si on veut profiter de cette visibilité, il faut aller chercher des intervenants qui ont une visibilité en ligne. Alors, pas exclusivement, parce qu'il y a aussi des personnes très très compétentes et très expertes dans leur domaine qui ne sont pas forcément visibles en ligne, qui ont écrit des livres ou qui sont professeurs ou des choses comme ça. Donc ça vaut le coup aussi d'aller voir les autres environnements, mais il faut chercher un équilibre et il faut quand même, si possible, aller chercher des personnes assez influentes en ligne.
Est-ce que tu as des conseils pour convaincre, on va dire, les gens de participer à notre sommet, même si on n'est pas forcément la personne la plus connue?
Ouais, c'est ça. Et ça, c'est vraiment un exemple aussi. J'ai des clientes qui sont allées chercher des très, très gros intervenants et qui n'y croyaient pas. Donc, en fait, on n'a rien à perdre. Et surtout, il faut oser aller chercher les personnes dont on rêve. Parce que souvent, elles vont dire oui, c'est des personnes qui ça leur coûte pas grand-chose de donner une demi-heure, une heure de leur temps. Ça leur permet d'avoir une visibilité en ligne, de continuer en tout cas à nourrir leur visibilité. Le tout, c'est que vraiment, l'audience de l'événement corresponde à leur cible. Donc, il faut un peu leur présenter, bien sûr, le sujet de l'événement, mais qui on va aller viser, comment on va le faire, qu'ils voient que c'est sérieux, qu'on a un plan de com', voilà. Après, il y a plusieurs façons un peu de les motiver, parce que nous, on ne paye pas sur les événements sur lesquels je suis, on ne paye pas les intervenants, donc c'est vraiment un partenariat, en fait. L'affiliation. Ça, c'est un bon moyen de convaincre les intervenants parce qu'on leur demande quand même du temps. On leur demande éventuellement des ressources à mettre dans leur coffret. Donc, l'affiliation, c'est un bon moyen surtout de les motiver de faire de la promotion. Donc, ça marche très, très bien pour les personnes qui sont très influentes en ligne. Elles ont un vrai retour sur investissement s'ils font un minimum de promotion, quoi. Et voilà. Et vraiment, je pense que le point principal, hors affiliation, hors échange monétaire, etc., c'est vraiment de leur faire sentir que c'est un projet qui vous tient à cœur, qui a une vraie raison derrière, que ce n'est pas simplement commercial ou parce que c'est un lancement, etc., qu'il y a une vraie mission derrière et ils vont sentir en fait votre passion. Et si c'est quelque chose qui leur tient à cœur aussi, normalement, c'est banco. Donc, voilà, il y a un vrai argumentaire à avoir.
Ok. Donc, on a l'objectif avec l'événement, on a la liste des participants et le fait de s'y prendre bien bien en avance parce que forcément, il y a beaucoup de retours par email ou par téléphone.
Exactement. Voilà, donc tout ça en même temps, au fur et à mesure qu'on confirme les intervenants, bien sûr, on leur donne, faut un peu faire son programme et sans que ça soit trop, enfin, il faut rester flexible parce qu'on veut aussi que les intervenants puissent proposer un peu leur sujet. S'il y a, voilà, faut pas faire quelque chose de trop figé. Encore une fois, c'est collaboratif, donc on peut avoir une idée un peu du déroulé du programme, et après on en parle avec les intervenants parce que finalement c'est quand même aussi leur expertise, donc ils ont quelque chose à apporter. Voilà, après stratégie, intervenant, éventuellement sponsor, c'est pas obligé, on n'est pas obligé de faire ça au premier événement, mais encore une fois on peut, et c'est un peu la même démarche que pour aller chercher des intervenants, c'est qu'il faut aller chercher des entreprises qui ont la même cible que l'audience qu'on va viser. Et ça peut être autant des échanges de visibilité que des échanges monétaires. Ça va dépendre aussi de la taille de l'entreprise, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça prend du temps en plus, forcément, de faire une stratégie de sponsoring et d'aller démarcher des sponsors. Donc voilà, à prendre en compte dans le temps qui est déjà assez limité, mais ça peut vraiment valoir le coup. Avoir un gros sponsor, ça apporte un marqueur de crédibilité aussi à l'événement. Donc voilà, à prendre en compte. Ensuite, il y a toute la phase de promotion à vraiment à préparer, parce que c'est 3 semaines de promotion, 3 semaines, 1 mois, quand même assez intense. Et surtout, on veut non seulement préparer sa propre promotion, donc sur tous les canaux forcément possibles, mais il faut que ça reste pertinent. Mais on veut faciliter la tâche aux intervenants. Donc, en fait, il faut leur envoyer éventuellement des templates de mails, de posts pour les réseaux sociaux, des visuels déjà prêts. Vraiment, plus on va leur faciliter la tâche, plus ils vont partager. Et ça, c'est vraiment clé. Et c'est le canal de communication, vraiment la communication par les intervenants. C'est celle qui convertit le mieux. Même sur, je parle aussi des gros événements que je fais dans mon poste salarié. Il y a peut-être moins de volume que par exemple la publicité, mais les participants s'inscrivent beaucoup plus et convertissent plus derrière. C'est beaucoup plus qualitatif comme audience. Donc, ça vaut le coup de pousser ça. Donc, bien préparer sa communication pour que quand on lance la promotion, presque ça aille tout seul parce qu'il y a beaucoup, il y a toujours beaucoup d'autres choses à faire, des choses de dernière minute, etc. Et ensuite, il y a un peu le volet technique. Parce que c'est quand même un événement en ligne, donc bien faire tous les tests, préparer son branding selon la plateforme qu'on utilise, connecter un peu les outils entre eux, faire ces séquences de mails de rétention aussi, pas seulement de promotion, mais une fois que les participants sont inscrits, comment est-ce qu'on va les convaincre de venir à l'événement ? Parce qu'on peut facilement tous s'inscrire à plein de choses gratuites, et puis finalement, on ne va pas faire l'événement. Donc, comment est-ce qu'on les engage dès le début ? On peut créer pour ça une communauté, par exemple dans un groupe Facebook, on leur envoie des mails, on peut leur envoyer des invitations calendrier, on peut les... Voilà, il y a plein de techniques différentes, mais pour rester en contact sans les harceler, mais vraiment rester en contact, partager les coulisses de l'événement, un peu leur faire participer un peu à toute l'excitation de l'événement qui approche. Et puis ensuite, ben, c'est l'événement. Donc, voilà, bien effectivement tout tester et se faire accompagner si possible par une ou deux personnes, par exemple pour modérer le chat. Parce que le principe aussi de l'organisateur de l'événement, c'est qu'il n'est pas qu'en coulisses. Pour avoir cette crédibilité et tout ça, il faut qu'il ait une session, il faut qu'il fasse des interviews, il faut qu'il fasse des transitions entre les sessions. C'est important que l'organisateur ou l'organisatrice soit vraiment omniprésente pendant l'événement pour cette visibilité et cette crédibilité, justement. Et donc, voilà. Donc, si possible, se faire accompagner parce qu'on ne pourra pas tout gérer. Pendant l'événement, il y a des mails qui arrivent, des personnes qui n'arrivent pas à se connecter. Enfin, faire un peu tout ce service client et être disponible parce qu'une personne seule, c'est un peu compliqué. Après, il n'y a pas besoin de 50 personnes, mais une personne, voire deux, c'est bien.
Ouais, celle-ci anticipe la question que j'allais te poser après. Est-ce que c'est possible de faire un événement comme ça tout seul ? En fait, non, c'est assez compliqué parce qu'effectivement, il faut être un peu sur tous les fronts.
Ben, sur le tout seul dans l'organisation, c'est possible. Tout seul pendant l'événement, c'est quand même... Alors, c'est possible, mais on va vite être distrait par les commentaires, les trucs, les emails qui arrivent. Donc, il vaut mieux quand même avoir une assistante virtuelle ou... voilà, après, bon, je l'ai fait aussi avec des membres de ma famille. Enfin, voilà, on peut un peu aller chercher si on les briefe bien avant. C'est pas très compliqué, mais c'est compliqué d'avoir un œil sur tout. On a beaucoup de notifications un peu dans tous les sens et plus il y a de participants, forcément, plus c'est un peu le... Voilà. Et dernière étape, parce que quand l'événement se passe, ce n'est pas fini, c'est qu'il y a toute la partie post-événement qui est quand même importante, qui se réfléchit aussi en amont un peu dans la phase stratégique. C'est en fait, Une fois que l'événement est fini, qu'est-ce qu'on va faire de cette nouvelle audience? Comment est-ce qu'on va progressivement l'intégrer à sa newsletter, par exemple, ou à ses offres? Comment est-ce que... Voilà, il ne faut pas qu'il y ait une transition trop brutale, en fait, entre, ben, c'est bon, tu étais participant à mon événement, je te balance dans ma liste email, et puis on fait comme... Enfin, tu vois, il y a quand même une chose à réfléchir. C'est important aussi de se poser, de faire un vrai bilan émotionnel, déjà, chiffré, bien sûr, d'envoyer un questionnaire de satisfaction aux participants, surtout si on veut le refaire. Voilà, donc il ne faut pas le faire trop longtemps après l'événement, parce que même si on est épuisé, on a tendance à oublier un peu. Donc, vraiment se poser et faire toute cette partie post-événement pour repartir sur de bonnes bases si on veut le refaire. Et puis, globalement, juste pour faire un bilan sur le projet, quoi. Voilà un peu les étapes.
Effectivement, ça nécessite un travail que les gens n'imaginent pas forcément.
Ouais,
pour le coup, est-ce qu'il est possible d'organiser un événement sans dépenser le moindre euro?
Ça dépend ce qu'on a déjà. Comme je t'ai dit, les entrepreneurs ont déjà en général des logiciels avec des abonnements qui payent, etc. Donc, si vraiment on part du principe qu'on n'a rien, en gros, il faut... Bon, quand même ordinateur avec un webcam et un son, ok. En termes d'outils digitaux, il faut au minimum un outil pour envoyer des emails. Alors, MailChimp a je sais que MailChimp a une version gratuite jusqu'à un certain nombre, donc on peut commencer par ça. Sur MailChimp, est-ce qu'on peut faire une page d'inscription, une landing page?
Je sais pas, mais c'est possible aussi sur MailerLead qui est gratuit jusqu'à 1000 inscrits. Et...
Okay. Bon, en gros, il faut pouvoir envoyer des emails, il faut pouvoir faire une page d'inscription pour l'événement, éventuellement une page de vente si on vend quelque chose, un outil pour héberger le contenu qu'on vend, et il faut un outil de capture vidéo, donc soit Zoom, soit StreamYard. Moi, je recommande StreamYard parce que je trouve que le rendu est plus pro. Je trouve qu'il y a des options de branding qui sont très avancées. Ça fait presque show télé. On peut faire passer des bannières en bas. On peut vraiment faire ressortir le branding. Et en général, moi, je conseille de le connecter. En fait, on le connecte à YouTube, qui est donc gratuit. Et on intègre... Alors, soit on envoie les gens directement sur YouTube, soit on intègre la fenêtre YouTube et le chat sur son site Internet. Donc, bon, ça demande aussi d'avoir un site internet, mais sinon, on peut juste utiliser YouTube pour un peu faire le branding autour. Voilà. Et ce qui est bien avec StreamYard, c'est que, par exemple, les commentaires remontent. C'est un peu comme une régie, c'est un peu comme un studio en ligne. Et les commentaires de YouTube remontent et on peut les afficher à l'écran. Donc, en fait, quand on répond à une question, on peut afficher à l'écran, on peut dire, voilà, Safia a demandé cette question. Et en fait, on parle, il y a vraiment cet échange avec les participants. Là, je parle vraiment du direct parce qu'il y a aussi des événements digitaux et des sommets virtuels qui sont faits en pré-enregistré.
C'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce qu'il y en a un qui fonctionne mieux que l'autre?
Moi, je trouve que le live a beaucoup plus de valeur que le pré-enregistré. Quand même, parce que justement, il y a cet échange qui est possible, parce que c'est beaucoup plus spontané et on le sent. Et aujourd'hui, on ne peut plus faire passer du pré-enregistré pour du live. Ce n'est pas possible, ça se voit. Donc, moi, je conseille du live. Après, ça peut être bien de faire du pré-enregistré pour se lancer quand on n'est pas très à l'aise avec avec parler en facecam, etc. Le pré-enregistré, ça peut marcher, mais il y a beaucoup plus d'efforts à faire côté engagement parce que, encore une fois, plus les participants sont engagés, plus vous gagnez leur confiance, plus ça convertit derrière. Et avec le pré-enregistré, on a beaucoup moins d'engagement possible. Il n'y a pas les commentaires, on peut avoir des commentaires, mais il n'y a pas de retour de l'expert en train, enfin voilà, l'avantage quand même de ces événements, c'est de pouvoir donner accès à des experts auxquels on a rarement accès. Donc, moi, je conseille le live, mais le pré-enregistré.
Ok. Est-ce que tu as des conseils, finalement, pour toute la partie création de l'énergie, de la communauté dans le chat, de l'échange, etc., de la connexion? Parce que, comme tu l'as mentionné, c'est pas facile, d'un point de vue virtuel, de générer de l'engouement et de l'échange entre les gens sur... Ouais. Un chat, donc est-ce que tu as des conseils par rapport à ça?
De commencer en amont, en fait, et que dès que les participants s'inscrivent, de leur donner cette possibilité déjà de connecter avec les autres et avec les intervenants et avec l'organisateur. Donc, moi, je trouve que les groupes Facebook, ça marche bien pour ça. Donc, on leur donne la possibilité de s'inscrire à un groupe Facebook. Et par contre, c'est sûr qu'il faut l'alimenter, ce groupe. Faut pas, voilà, ça va pas. Et bon, là, on connaît la difficulté d'engager une communauté dans un groupe Facebook. Mais c'est possible. Il faut faire du live dedans. Il faut poser des questions en sondage, etc. Et au fur et à mesure, les gens commencent à se livrer. Il faut les faire parler d'eux, en fait. C'est ça qui marche quand même bien, c'est qu'il faut leur voilà, parler autour du sujet de l'événement, des problématiques, mais leur faire vraiment partager eux leurs problèmes. Et voilà, ça va faire un peu un effet boule de neige où les autres participants vont commencer à commenter aussi. Et le but, c'est aussi de faire monter l'excitation avant l'événement, donc leur partager des coulisses, leur faire deviner les intervenants, ça marche bien. Donc, pas forcément livrer les intervenants tout de suite, mais ce qu'on fait avec mes clientes là, c'est de faire des silhouettes en ombre. Et du coup, on voit un peu la posture de la personne. Donc, peut-être c'est possible de deviner si c'est des gens vraiment connus. On a un peu l'habitude de leurs
Ouais,
photos.
c'est
Mais
top.
voilà, ça marche bien vraiment à développer cet engouement. Et puis pendant l'événement, il faut parler à l'audience en fait. On n'est pas tout seul devant son. Enfin, si, on est tout seul devant son écran, mais il faut se rendre compte que, y a des milliers de participants, des centaines qui nous regardent. Et donc, il faut leur parler. Comme je te parle maintenant, en fait, il faut leur dire. Enfin, voilà, il faut s'adresser à eux comme si on était en fait en face d'une audience dans un événement physique. Et naturellement, ils vont commenter. En général, on a beaucoup d'engagement dans le chat. Et ce n'est pas forcément des questions, c'est des réactions à ce qu'on dit. Donc, bon, il y a beaucoup d'emojis, emojis feu, emojis étoiles dans les yeux. Mais ça les fait participer et ça, pareil, ça fait un engrenage où les autres participants s'y mettent, etc. Et voilà. Un des inconvénients de l'outil que j'utilise qui s'appelle StreamYard, c'est que c'est vraiment à sens unique en termes visuels. Avec Zoom, on peut voir. Alors, il y a des limites de personnes, hein, je crois que c'est peut-être 500 le max. Mais on peut voir les autres participants, un peu comme Tony Robbins fait. On a vu ses setups là,
Oui.
pendant la pandémie avec un mur, un studio, un mur de participants.
Hyper
Mais
impressionnant.
d'utiliser Zoom, hein, ce n'est pas un outil beaucoup plus avancé. Et effectivement, il y a plus d'engagement parce que là, on voit visuellement les participants. Mais ça a un coût. Je ne sais plus combien il est l'abonnement Zoom, vraiment. Voilà, à voir si vraiment c'est nécessaire. On peut l'inclure dans le budget. Mais moi, je trouve que les commentaires, ça marche bien. Et voilà, et après, on peut aussi se retrouver dans le groupe Facebook. Il y a des personnes qui font des cérémonies d'ouverture et des cérémonies de clôture en live dans un groupe, par exemple. Et là, ça permet aussi de parler avec les participants, de faire un peu un débrief aussi avec les intervenants de ce qui vient de se passer. Donc voilà, faut pas. L'engagement, en fait, sur les événements en ligne ne se fait pas que pendant l'événement. Il se fait aussi en amont et après.
Ok. En tout cas, merci, c'est hyper intéressant. Alors pour les personnes qui ont apprécié ce qu'ils ont entendu et qui ont envie concrètement de réfléchir à l'idée de d'organiser un événement virtuel, tu nous as prévu un petit modèle de budget prévisionnel pour organiser son événement, c'est ça?
Oui, exactement. C'est un outil qu'on utilise, enfin que j'utilise depuis 10 ans dans l'événementiel, mais c'est vraiment une des premières choses à faire aussi. C'est un modèle, enfin c'est un budget prévisionnel. Donc en fait, on liste toutes les dépenses prévues, on les estime. Donc on a un budget global, je sais pas, 1 000 euros. Et ensuite, on va estimer les sources de revenus. Donc ça passe par les ventes d'offres. Il peut y avoir plusieurs paliers de prix. Ça peut aussi passer par le sponsoring monétaire. Ça c'est peut-être un peu plus tard, mais ça peut passer par le merchandising. Quand on a un événement qui est très reconnu, etc., ben on peut commencer à faire un peu des tasses, des machins. Mais ça passe vraiment, c'est quand même une source de revenus. On calcule un peu le nombre de ventes qu'il faut qu'on fasse pour, un, arriver à rentrer dans ses frais. Donc, on a dit 1 000 euros. Donc, combien de ventes je vais devoir faire pour avoir 1 000 euros? Et ensuite, quel est en fait mon objectif de chiffre d'affaires? Parce que bon, c'est bien de travailler 3 mois là-dessus, mais si on peut dégager quand même un petit bénéfice, c'est sympa. Donc, quel va être en fait l'objectif de bénéfice? Et donc, de prendre ça en compte vraiment dans les sources de revenus. Voilà. Et dans mon budget, dans mon modèle de budget prévisionnel, j'ai calculé. On a des taux de conversion un peu moyens qu'on observe sur les événements qui permet de faire un benchmark. Et moi, j'essaye de viser, ou en tout cas la moyenne, c'est 3%. des participants qui vont acheter. Okay. Donc ça peut vraiment varier. J'ai des clients qui ont fait 3, j'ai des clients qui ont fait 6, j'ai des clients qui ont fait 9. Wow. Avec des prix, ouais, avec des prix vraiment variables. Donc ça dépend de plein de critères, mais dans ce budget prévisionnel, vous avez le nombre de participants, votre objectif de participants qui se calcule automatiquement selon le nombre de ventes que vous devez faire pour rentrer dans vos frais.
Donc, voilà, bien pratique.
Pratique, exactement.
Carrément. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées et qui ont envie d'avoir un aperçu concret pour déjà apporter plus de structure à cette idée, de toute façon, ce sera dans les notes de cet épisode. Puis si on a envie de te suivre sur les réseaux sociaux, de te retrouver parce qu'on a envie d'approfondir le sujet, tu es sur Instagram à Events Events. Est-ce que tu es sur d'autres plateformes?
Alors non, essentiellement Instagram, et après j'ai mon blog sur mon site.
Je mettrai le lien aussi du site internet, comme ça il y aura l'expérience complète. Merci beaucoup pour ton temps et puis pour toutes les informations. Honnêtement, j'ai appris énormément de choses et c'est un sujet que je trouve hyper intéressant, que on a déjà discuté. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire aussi, mais effectivement, ça demande une bonne préparation pour que les choses se passent au mieux et que personne ne perde son temps, quoi.
Exactement.
Mais au moins, avec ton échange, ça aura permis d'apporter plus de clarté sur le sujet.
Merci beaucoup, beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment sympa.
Avec grand plaisir.
À bientôt.
À très vite. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez trouvé aussi intéressant que moi. Si c'est le cas d'ailleurs, n'hésitez pas à écrire à Camille sur Instagram. Je suis persuadée que ça lui fera un très grand plaisir. Si jamais vous voulez accéder à la ressource gratuite de modèles de budget prévisionnel pour votre prochain événement virtuel, eh bien le lien se trouve dans les notes de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous avez envie de soutenir le podcast de manière totalement gratuite, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur Build Yourself.